Radio Prague International en français, les informations.
Bonjour et bienvenue à l'écoute de Radio Prague International, voici les titres de l'actualité. Un enseignant tué à coups de machette à Prague, le rapport européen d'audit agricole sur le conflit d'intérêts d'Andrej Babiš et enfin un billet de banque commémoratif à l'effigie de Karel English. Un enseignant d'un lycée professionnel de la rue Ohradni dans le 4e arrondissement de Prague est décédé après avoir été attaqué à la machette aujourd'hui, juste avant midi. Le suspect, a priori un élève, a été arrêté. Le directeur du lycée, Karel Dvořák, a déclaré « Le professeur faisait partie du personnel enseignant de longue date et c'est prétendument un de nos élèves qui l'a attaqué. Je n'en sais pas plus. » La République tchèque a reçu le rapport final de la Commission européenne sur l'audit agricole concernant les conflits d'intérêts de l'ancien Premier ministre Andrej Babiš. L'audit vise à évaluer la légitimité des subventions accordées aux entreprises du groupe Agrofert, qu'Andrej Babiš a placées dans des fonds fiduciaires. Le ministre de l'Agriculture Zdeněk Nekula a précisé qu'après avoir pris connaissance du rapport en détail, la marche à suivre serait déterminée en coopération avec le Fonds d'intervention agricole de l'État. Cet audit agricole ne traite qu'une partie du conflit d'intérêts d'Andrej Babiš, l'autre partie étant traitée par le ministère du Développement régional. Dans un rapport d'audit préliminaire, la Commission européenne avait déclaré qu'Andrej Babiš se trouvait en situation de conflit d'intérêts parce qu'il avait toujours eu une influence sur Agrofert, même s'il avait placé le groupe dans des fonds fiduciaires. En raison de cette évaluation, la République tchèque pourrait rendre de l'argent au budget de l'Union européenne. Pour sa part, Andrej Babiš nie la possibilité d'un conflit d'intérêts. Le comité d'éthique de la Fédération tchèque de football a engagé une procédure contre le chancelier du président Miloš Zeman, Vratislav Mináš, qu'elle soupçonne d'avoir commis une infraction disciplinaire en perturbant la régularité de la compétition. Membre de la Fédération tchèque de football, Vratislav Mináš aurait demandé de l'aide à l'ancien vice-président de la Fédération Roman Berber pour soutenir ou protéger le club de première division FC Slovácko en supervisant les arbitres, entendez par là, pour que ces derniers ne nuisent pas au club. Roman Berber et d'autres personnes sont déjà poursuivis pour corruption et influence sur les résultats des 2e et 3e ligues. La technologie tchèque Sauer, qui permet de produire de l'eau à partir de l'air du désert en utilisant l'énergie solaire, a reçu le prix UANO Innovate de la meilleure innovation à l'Exposition universelle 2020, qui se termine jeudi à Dubaï. Ce prix, décerné par l'organisation gouvernementale de Dubaï, est le 2e succès du projet Sauer. Il y a 2 semaines, il avait remporté la 2e place dans un concours de projets de 192 pays, organisé par le magazine américain Exhibitor. La Banque nationale tchèque a émis le 2e billet commémorant la création de la monnaie tchécoslovaque. D'une valeur faciale de 100 couronnes et émis en 20 000 exemplaires, ce premier billet de l'histoire tchèque à porter un hologramme est à l'effigie de Karel English, dont le gouverneur de la Banque nationale tchèque Jiří Rusnok estime qu'il est le plus grand économiste national de l'histoire tchécoslovaque et tchèque. Émis en 2020, le premier billet commémoratif comportait le portrait de l'économiste et homme politique tchécoslovaque Alois Rašín. À l'effigie du premier gouverneur de la Banque nationale de Tchécoslovaquie Vilém Pospíšil, le 3e billet de la série sera émis en 2026, à l'occasion du 100e anniversaire de la Banque nationale de Tchécoslovaquie. Pour finir, quelques mots de météo. Vendredi, jour de fête des Hugo, le ciel sera bouché sur l'ensemble du pays, avec des averses par endroits se transformant progressivement en mélange neige-pluie comme on les aime, voire en neige, notamment en montagne et au nord du pays. Température maximale 1 à 5 degrés. Ce n'est que le début du refroidissement puisque la neige est attendue sur l'ensemble du pays ce week-end avec des températures juste en dessus de 0 en journée et négatives pendant la nuit. C'est la fin de notre bulletin d'information qu'a eu le plaisir de vous présenter Anaïs Rimbaud. Restez avec nous pour la suite du programme en français.
Faits et événements en République tchèque.
Bonjour, merci à Anaïs Rimbaud pour ce bulletin d'information. Merci à toutes et à tous d'écouter Radio Prague International. Au menu de cette émission, le nouvel épisode de notre série d'entretiens Dialogue Paris-Prague. C'est Andrea Sedláčková qui est notre invitée aujourd'hui.
Dialogue Paris-Prague, c'est le podcast de Radio Prague International, produit en collaboration avec le Centre tchèque de Paris et dédié à des personnalités au parcours entre Tchéquie et France. Présentation, Anna Kubišta.
Andrea Sedláčková, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous faites partie de ces personnes qui incarnent le mieux l'idée de ce podcast de Radio Prague International et du Centre tchèque de Paris, Dialogue Paris-Prague. Ce podcast qui est censé mettre en avant les passerelles culturelles entre France et République tchèque. Vous êtes toujours en mouvement. Vous êtes certes basé à Paris, mais vous aussi en fait entre la Tchéquie et la France constamment pour votre travail de cinéaste, pour vous-même aussi j'imagine. Vous êtes réalisatrice de films en France et en Tchéquie, on en reparlera. Mais autrefois, vous avez été monteuse au cinéma français. Pourquoi et comment ?
Je suis arrivée en 89, je suis rentrée à la FEMIS en 90, j'ai fini cette école en section montage et j'ai commencé à monter des films, d'abord des documentaires et après des longs métrages, mais je continue à faire ce travail encore. J'ai monté le dernier long métrage de Philippe Lioret et voilà, et plein d'autres.
C'était peut-être une manière de rentrer dans le cinéma français peut-être plus facile que d'aller tout de suite vers la réalisation, puisque vous veniez justement en France, en ne parlant peut-être pas la langue à l'origine.
Voilà, je ne parlais pas un mot quand je suis arrivée à Paris. Bonjour, merci, chérie. Et après que j'étudiais le scénario, du coup, je savais que je ne pouvais pas évidemment de continuer mes études d'écriture. Et j'ai cherché quelque chose qui ressemblerait à l'écriture. Je savais que c'était le montage, alors j'ai fait ce département. Mais en même temps, à la FEMIS, ce qui était extraordinaire, qu'on pouvait réaliser aussi des films, ses propres films. Et du coup, j'ai commencé à faire des petits films à la FEMIS. J'y ai pris goût et j'ai commencé aussi à réaliser, en fait, du coup, à Prague. Et à Paris, j'avais ma carrière de monteuse. Voilà.
Alors, vous êtes partie durant l'été 1989, c'était une période où on ne pouvait pas imaginer ce qui allait se passer quelques mois plus tard, c'est-à-dire la révolution de velours. Pourquoi est-ce que vous avez choisi la France plutôt qu'un autre pays, puisqu'on sait que l'émigration tchèque allait quand même beaucoup vers les États-Unis, l'Angleterre, peut-être le Canada, l'Australie, ou peut-être même tout beaucoup plus proche de vous, l'Autriche ou l'Allemagne ?
Je ne suis pas partie en sachant que je vais demander l'asile politique. J'étais en Angleterre où j'ai appris que je vais être virée de mon école, de la FAMU pour mes activités politiques. Mais je n'aimais pas du tout Londres. Je parlais anglais, évidemment, mais je trouvais qu'on buvait la bière, le whisky, et j'aimais bien le café, le vin. Et je trouvais Londres énorme, pas beau, en fait. Et je réfléchissais où aller, parce que je parlais allemand et j'avais une partie de la famille en Suisse, une partie en Allemagne. D'ailleurs, j'avais le visa parce que je devais faire un tour en Europe. Mais finalement, et j'ai parlé allemand, mais finalement j'ai décidé d'aller à Paris où j'avais quelques connaissances vagues avec quelques amis avec des gens, des touristes français que j'ai rencontrés à Prague. Et d'une manière très naïve, voilà, je suis arrivée à Paris et j'ai commencé mon périple français.
Je disais que vous êtes arrivée durant l'été, 89, et vous avez donc demandé l'asile politique que vous avez obtenu le 17 novembre 1989. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, ce qui serait quand même incroyable, c'est le jour de la révolution de velours. En tout cas, c'est quand ça commence justement ici en Tchécoslovaquie à l'époque. C'est tout un symbole quand même.
Oui, c'était pas rigolo du tout. J'ai eu ce papier que normalement j'aurais dû être contente. Après, j'ai regardé ce qui s'est passé à Prague et j'avais vraiment envie d'être plutôt à Prague. Mais je ne pouvais pas parce que quand vous demandez l'asile politique, vous mettez votre passeport, vous rendez votre passeport tchécoslovaque. Et du coup, j'étais bloquée à Paris et je n'avais qu'à regarder à la télé les événements, sauf que je n'avais pas la télé. Du coup, j'allais à 13h dans des magasins où ils vendaient la télé, je regardais les images dans les magasins. Et après, je travaillais un petit peu à Sudestui, qui était une revue tchécoslovaque à Paris, anticommuniste, géré par Pavel Tigride. Ça, c'était bien parce que du coup, je pouvais vraiment suivre d'assez près ce qui s'est passé à Prague grâce à lui.
Justement, c'était une de mes questions, hein, puisque vous avez évolué dans ces cercles de l'émigration tchécoslovaque autour de Svědectví, donc témoignage en français. Quelle ambiance régnait à l'époque, justement, dans ces cercles tchèques et slovaques?
C'était assez beau parce que j'avais plusieurs amis qui étaient de la génération de l'immigration de 68. C'était des gens qui, à l'époque, avaient 40, 45 ans parce qu'ils sont arrivés dans la plupart du temps, ils avaient 20 ans. C'était des gens qui avaient plein de force et ils étaient tous très intelligents, très amusants, très intéressants. Et à l'époque, la communauté tchèque était vraiment très liée. Il y avait, on se retrouvait chaque semaine, principalement chez Prokopovskovec, et samedi aussi, on allait boire le coup avec les gens qui travaillaient à Svědectví. Et il y avait plein de fêtes tchèques. C'est quelque chose que je pense que n'existe plus à Paris. Aujourd'hui.
Oui, les Tchèques qui vivent à Paris aujourd'hui, j'imagine, c'est plus disséminé, les gens ne se connaissent pas forcément en fait.
Oui, en tout cas la jeune génération. Mmh. Oui, oui.
Est-ce qu'il y avait des différences peut-être quand même entre les gens, les différentes vagues d'immigration? Parce que j'ai parfois entendu que c'était compliqué pour certaines personnalités de s'entendre avec la génération qui avait immigré en 48, celle qui avait immigré en 68, c'était pas forcément les mêmes raisons. Est-ce que vous sentiez ça ou finalement ça vous passait au-dessus et c'était plus, j'ai envie de dire, l'enthousiasme pour ce qui se passait finalement ici en Tchécoslovaquie, de se dire que le régime allait enfin tomber?
Bon, je connaissais plutôt vraiment les gens qui étaient de la génération 68. Et après, au bal de Sokol, je me souviens que j'ai rencontré aussi des vieux de la génération de 48 que je trouvais très vieux à l'époque. Ils devaient avoir 70 ans et un peu, oui, moins intéressant pour moi, mais. Je comprenais pas très bien les conflits intergénérationnels à l'époque. En tout cas, ce que je savais, que tous ces gens-là ne parlaient pas avec des gens qui se sont mariés en France, qu'ils ont fait le mariage blanc, qui sont venus pour profiter du système français, mais qu'ils n'avaient pas le courage de demander l'asile politique. Et aussi, ils les ont beaucoup soupçonnés de collaborer avec la police secrète tchécoslovaque, parce qu'ils savaient que ces gens-là peuvent voyager en Tchécoslovaquie. Et c'est vrai qu'il y en avait beaucoup qui collaboraient en réalité. Mmh. Oui.
On a du mal à s'imaginer, j'imagine, aujourd'hui. Peut-être je fais un petit saut en avant avec le temps présent, parce que j'ai quand même pensé à ça. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui quand vous voyez ce qui se passe, par exemple, en Ukraine, à vous, finalement? Alors, évidemment, c'était pas du tout la même situation, c'était pas une situation de guerre hein, quand vous avez fui, mais comme vous, finalement, il y a plein de gens aujourd'hui qui se retrouvent sur les routes, exilés, à quitter leur foyer sans savoir s'ils peuvent revenir. Est-ce que ça réveille des choses en vous, et aussi la mainmise de la Russie sur un autre pays?
Bon, évidemment, ça nous rappelle énormément hein, notre vie avant, même si nous on était occupés finalement d'une manière paisible par rapport à l'Ukraine en 68. Ça nous rappelle cette lourdeur dans laquelle on a vécu sous l'emprise de l'Union soviétique et cette violence permanente de l'époque qui était psychologique plutôt. Et aussi, oui, de voir ces gens qui arrivent et qui connaissent pas la langue. Et en plus, eux, dans beaucoup de cas, ils connaissent même pas la manière d'écrire. Hein. Ils écrivent, ils lisent en cyrillique. Ça veut dire qu'ils sont encore doublement pénalisés. Hein. C'est horrible. Mais c'est incomparable. Moi, je suis arrivée toute seule dans un... Et là, c'est des familles... Qui sont une petite valise et tout est détruit chez eux. Hein. C'est absolument affreux. Je remercie Václav Havel qui nous a fait rentrer à l'OTAN et que on a beaucoup de chance de ne pas être attaqué par la Russie dans le futur.
À Alors, vous avez récemment réalisé un film documentaire hein, consacré à une peintre surréaliste tchèque, Toyin. Alors, Toyin, c'est vrai que on la redécouvre aujourd'hui. Il y a eu une grande exposition ici à Prague, il y en a eu une à Paris. Et elle, hein, pour le coup, elle incarne aussi véritablement ses liens franco-tchèques. C'est intéressant que finalement, vous êtes venu à elle après avoir fait quand même beaucoup de films. Est-ce que pour vous c'était important justement de vous intéresser justement à une figure phare justement de ces relations franco-tchèques puisque elle en fait c'est la période de l'entre-deux-guerres, c'est une artiste et on sait évidemment que cette période-là était vraiment très fructueuse pour les relations bilatérales.
Ce n'était pas mon idée, c'était la télévision de Brno qui a pris il y a maintenant 2 ans cette grande exposition qui voyageait entre Prague, Hambourg et Paris se prépare et ils m'ont écrit oui si je voulais faire un petit film sur l'expo et je me suis dit mais c'est incroyable cette femme que je connaissais parce que j'ai vu il y avait une autre exposition en 2000 à Prague et je connaissais évidemment un petit peu son destin sa vie. Je me suis dit mais c'est incroyable que je n'y ai jamais pensé, c'est un destin tellement extraordinaire et j'ai dit tout de suite mais non, on va pas faire un petit film sur l'exposition, on va faire un grand film sur la vie et l'œuvre de cette femme. On s'est adressé à Arte, on avait de la chance de pouvoir faire la coproduction. Du coup, ça nous a permis de faire vraiment un film plus profond. Et voilà, il est passé hier sur Arte, il est encore en ligne sur Arte. Vous tapez Toyin plus Arte, hop. Il s'appelle Toyin, la femme, la baronne subversive du surréalisme.
Alors justement, vous disiez que vous la connaissiez quand même un petit peu, évidemment. Qu'est-ce que, par contre, vous avez découvert dans votre travail de recherche, justement, sur cette femme quand même assez incroyable hein ?
Ah ben, vous découvrez toujours, si vous commencez à faire un film sur quelqu'un, c'est un travail de... Et d'ailleurs, je l'ai préparé le film pendant un an. C'était plus difficile de trouver des choses parce que chez nous, tout le monde vous dit, le premier adjectif qui est lié avec Toyin, c'est « femme mystérieuse ». En fait, on dit, on sait rien sur sa vie, elle a toujours caché tout son passé, il n'y a pas une biographie vraiment, il y a une biographie très romancée qui est apparue l'année dernière, mais elle n'est pas basée sur beaucoup de faits. Et du coup, j'ai commencé à chercher et je trouvais, à ma grande surprise, à Paris, au fur et à mesure, plusieurs personnes que l'on bien connues, déjà dans les années 50 et dans les années 60, qui étaient ses amies exactement au moment quand elle est arrivée à Paris. Je trouvais même une dame qui a été mariée avec un ami de Toyin, qu'il a connu avant la guerre, dans les années 30, et qui avait même le souvenir, en fait, qu'on avait raconté déjà des années 20. Ça veut dire que cette dame, qui était beaucoup plus jeune que son mari, elle pouvait me raconter même des histoires vraiment des années 20. Ça, c'était assez extraordinaire. Et après, je trouvais énormément de choses dans les archives que personne n'a jamais cherché. Et c'était un travail un peu de détective, mais qui était assez extraordinaire. Mais le film est aussi beaucoup sur son œuvre, sur sa manière de peindre et de créer.
Et justement, alors, qu'est-ce que Toyin vous a-t-elle appris à vous, cinéaste ? Parce que bon, quand même, vous travaillez avec l'image, hein, elle, différemment, évidemment, mais peut-être est-ce que vous en tirez quelque chose pour votre propre travail ?
Elle avait une capacité extraordinaire de se renouveler sans arrêt. En fait, elle a plusieurs périodes dans son œuvre et aucune ne ressemble à la précédente ou suivante. Et ça c'est extraordinaire qu'elle a jamais resté dans le confort de quelque chose trouvé, que se remettait tout le temps en question. Et ça, c'est admirable. Et je pense aussi que ce qui était le plus important, c'était son œuvre, sa recherche. Et je me suis dit, voilà, c'est comme ça qu'il faut consacrer la vie. Mais bon, après, elle n'avait pas d'enfant, pas de famille. Elle ne vivait que pour le surréalisme.
Est-ce qu'il y a d'autres peut-être personnalités historiques qui justement incarnent bien ces relations franco-tchèques qui vous intéressent peut-être vous personnellement et pour lesquels peut-être vous auriez peut-être envie de faire un film, par exemple?
Il y en a,
mais... Ou qui mériteraient d'avoir un film, pas forcément de vous, mais de quelqu'un d'autre, voilà.
Voilà, il y en a, mais ils sont déjà, je dirais, occupés par les autres réalisateurs, parce que c'est assez difficile de trouver quelqu'un qui peut parler aussi au français, aussi au tchèque.
Si vous deviez caractériser peut-être ce que représente pour vous cette double vie que vous avez finalement entre Paris et Prague, entre la France et la Tchéquie, comment est-ce que vous trouvez votre équilibre peut-être entre ces deux pôles?
Oh, c'est bien. C'est que le problème logistique et financier, je dirais, c'est pour pouvoir vivre dans deux pays, il faut avoir deux appartements, il faut que les avions volent. Déjà, ce qui n'était pas le cas, par exemple, pendant le Covid. Il faut avoir la bonne santé pour pouvoir marcher dans les couloirs des aéroports. Il faut avoir quelqu'un à la maison qui s'occupe de vos enfants si vous n'êtes pas là. Et aussi la profession qui le permet. Hein, j'ai de la chance de pouvoir faire cette profession aussi à Paris, aussi à Prague. Mais bon, après, il faut chaque fois réfléchir bien pour les dates, etc. Mm-hmm.
Est-ce que vous avez un autre projet en cours?
Ben, celui qui est lié à Toya, le film, c'est un film, il est déjà raconté par, justement, l'image, il a une durée, la version de Arte, elle a 55 minutes, après la version pour la télévision tchèque, elle a 70 minutes, mais c'est déjà une durée limitée. Et justement, je me suis dit, j'ai appris tellement de choses extraordinaires que je ne pouvais pas mettre dans le film, que je suis en train d'écrire un livre sur Toya. D'ailleurs, là, je vais encore à Památník národního písemnictví, comme on dit en français. Non, c'est des archives nationales, parce que je vais encore faire des recherches dans les archives des gens qui ont connu Toya pour essayer de trouver détails dans leur déniki, dans leur
journaux
intime, etc. Bon, ben, j'espère de finir le livre cet été, mais ce n'est pas sûr parce que je découvre chaque fois, je peux encore chercher ceci, cela et cela, etc. Mais c'est quelque chose que j'adore et j'écris aussi des livres, comme vous savez sans doute. Voilà.
Merci beaucoup, Andrea Selachkova.
Je vous en prie.
Dialogue Paris-Prague est un podcast de Radio Prague International produit en collaboration avec le Centre tchèque de Paris à l'occasion des présidences européennes assurées successivement par la France et la Tchéquie en cette année 2022. Le prochain épisode sera disponible dans 15 jours.
C'est déjà la fin de cette émission en français sur Radio Prague International. Merci de votre attention et de votre fidélité. L'actualité tchèque en français, ça continue sur notre site français.radio.cz et aussi sur Twitter et sur Facebook. On se retrouve demain. Portez-vous bien. Naslyšenou.